Les 50 ans de notre diocèse nous donnent l'occasion de réenraciner notre histoire dans la communion des saints. C'est le sens de cette semaine Sainte-Geneviève que beaucoup de paroisses vont vivre au cours de cette année anniversaire. Il y a trois statues de cette forme de Sainte-Geneviève qui passent de paroisse en paroisse pendant toute l'année. Donc nous la recevons de Saint-Cloud, nous irons la donner à Garches, et ce lien signifie bien qu'une paroisse n'existe que par le diocèse, c'est-à-dire en fin de compte par notre évêque. Voilà, et donc pendant une année, cette année anniversaire sera pour nous l'occasion de nous rappeler que l'Église, c'est la communion des évêques. Et le premier évêque de notre diocèse, Mgr de la Rue, a choisi tout naturellement Nanterre pour y faire la cathédrale, parce que Geneviève y a vécu les 18 premières années de sa vie, ce que beaucoup de monde ignore. Et donc, en quelque sorte, c'est notre sainte à nous. Voilà, c'est la raison pour laquelle c'est la sainte patronne du diocèse de Nanterre. Et je voudrais méditer avec vous sur la vie extraordinaire de cette sainte du 5e siècle, sur laquelle nous sommes très richement documentés. Trois aspects, ce sera assez. Pour le reste, vous lirez les bandes dessinées, les livres qu'on vous proposera tout à l'heure à la sortie de cet office. Le premier aspect, c'est sa vocation assez extraordinaire. Geneviève vit avec ses parents à Nanterre. Son père est officier et il siège au gouvernement de Lutèce. Ce sont des notables. Ils sont très riches, ils ont beaucoup de propriétés dans l'Est et le Nord de la France, ils sont très influents et ils ont beaucoup de relations, comme on dit. De fait, un jour, nous sommes en 429, Geneviève a 8 ans, Saint-Germain d'Auxerre vient avec l'évêque de Troyes rendre visite à ses parents et loger chez eux. Germain, il faut le dire, c'est un personnage. Il est vénéré par les politiques, par les grands de ce monde, et il jouit de son vivant chez les chrétiens d'une réputation de sainteté. Et Geneviève va être marquée, c'est le moins qu'on puisse dire, par cette rencontre. Mais étrangement, il semble que ce soit réciproque. C'est-à-dire que cet homme qui était à l'égal des princes de ce monde à son époque est frappé par une gamine de 8 ans. Et ça donne à méditer quand même. Il y a en effet dans la vie, dans vos vies peut-être, il y a des rencontres qui changent tout. Et qui orientent la vie à jamais. Ce sont ce qu'on pourrait appeler des expériences fondatrices. C'est extraordinaire quand on peut connaître ça. Quand on connaît ça, quand on a la grâce d'avoir de telles rencontres qui sont enracinantes, ça affermit la vocation pour toute la vie. Et c'est ainsi que Dieu parle par nos frères. Souvent, vous savez, les chrétiens disent « Oh, mais moi, Dieu ne me parle pas. » Mais si, sauf qu'il parle par les frères. Alors évidemment, des rencontres aussi extraordinaires, aussi fascinantes que celles-ci, je pense que c'est quand même assez rare. Et ici, dans cette rencontre entre Germain et Geneviève, eh bien, il y a une vocation qui est enracinée et qui ne fléchira plus jamais. À cause probablement de la force de cette rencontre et de la force des deux personnalités qui se sont rencontrées. Geneviève décide donc de se consacrer à Dieu, d'une manière radicale, entière. Et Germain l'encourage, une gamine de 8 ans. Rendue à l'église, on va à l'église évidemment pour y célébrer, Germain va garder, il est quand même évêque, et c'est un des évêques les plus importants de la Gaule, il va garder pendant toute la célébration la petite Geneviève à côté de lui. ce qui est quand même un signe ostensible d'adoption mutuelle, si l'on peut dire. Le monachisme, au Ve siècle, n'existe pas encore sous la forme qu'on lui connaît. Par contre, il y a des communautés de femmes ou d'hommes qui se consacrent à Dieu entièrement et qui font un vœu auprès d'un évêque. Ils se consacrent à Dieu par la prière, par le service des frères et par le lien avec l'évêque. C'est ce que fera Geneviève dès qu'elle aura l'âge de la maturité. Donc vous voyez, 8 ans, elle est marquée par cette vocation, elle décide de se consacrer à Dieu, et à 20 ans, elle le fait. À la mort de ses parents, elle va résider à Lutèce, chez sa marraine. Elle fonde immédiatement une petite fraternité de femmes consacrées, comme elle, et elle devient une femme extraordinairement influente dans le milieu politique. Elle acquiert une réelle autorité. Et il semble bien que ce soit une belle autorité, et pas seulement à cause de son immense fortune. D'où le second aspect que je vous raconte. Nous sommes en 451. Geneviève a 30 ans. Et Attila sème la terreur du nord au sud. Les Parisiens, qui sont toujours très courageux, comme vous le savez, c'est encore le cas aujourd'hui, je parle des Parisiens, pas des banlieusards, les Parisiens pensent que du nord au sud, ça veut forcément dire Lutèce. Et ils paniquent à un point tel qu'ils veulent fuir la ville. Et nous raconte la vie de Sainte Geneviève, qui a été écrite 30 ans après sa mort, donc quelque chose qui est probablement très authentique. Et s'ils veulent fuir la ville, c'est pas du tout pour aller dans des avant-postes de défense, c'est pour protéger leurs biens. Et Geneviève va s'opposer à cette couardise, à cette trouille. Mais du coup, c'est elle qui va être menacée par la population en colère. Et elle va tenir. Il y a une espèce de conflit extraordinairement dur où elle risque sa vie et elle fait preuve d'un vrai courage politique. Et l'histoire va lui donner raison. Puis Attila ne passera pas par Lutèce. Il n'en a pas besoin. C'est Toulouse qu'il vise. Et vous voyez, c'est très intéressant cette petite anecdote. Parce que ça prouve bien qu'on peut être une femme d'une belle piété, on peut être une vierge consacrée, tout en ayant une force intérieure, tout en ayant une fermeté et une droiture. Eh bien, ça va bien ensemble. Et c'est peut-être ça qui fait l'authentique sainteté, l'authentique piété. Troisième point qui, cette fois, va la rendre très populaire. Regardez comme les gens sont versatiles. Elle a 50 ans quand la Gaule est à nouveau secouée par, cette fois-ci, des rivalités politiques entre les Wisigoths, les Burgondes et les Francs. Childeric, quel joli nom, Childeric, le futur père de Clovis, fait le blocus de Lutèce. Il n'en veut pas tellement à la ville de Lutèce, mais il en veut aux Gallo-Romains. Et la ville se trouve affamée. Avec l'influence qu'a Geneviève, elle réussit à négocier une levée provisoire du blocus à un moment particulièrement critique. Les gens sont en train de mourir. Et elle va chercher du blé là où elle sait qu'il y en a, chez elle. Du côté de Troyes. Je vous ai raconté tout à l'heure qu'elle était immensément riche. Elle a des terres un peu partout. Elle y va. Elle négocie de passer le blocus, elle embarque sur des barges, et la voilà partie. Et elle ramène du blé. Et elle sauve la population. Geneviève sauve Paris. Ah. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle est la patronne de la gendarmerie. C'est marrant, ça. Ben oui, parce que Geneviève garde la ville, elle veille sur la ville, et elle choisit toujours la voie la moins belliqueuse. Eh bien, c'est bien ce que font les gendarmes, non ? Je suis obligé de le dire, parce qu'il y a plein de gendarmes qui sont paroissiens de cette église. Donc, ben oui, quand même, c'est le rôle des gendarmes. Ils veillent, ils protègent, et ils devraient choisir la voie toujours la moins belliqueuse. Elle va rester en contact avec Childeric. Elle n'en veut pas à cet homme-là. Elle a réussi à négocier avec lui, ils s'entendent bien, Childeric l'estime, et elle aussi, c'est réciproque. Childeric est roi des Francs saliens, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas chrétiens. Les Burgondes sont chrétiens, les Visigoths sont chrétiens, mais ils sont chrétiens ariens, c'est-à-dire ils ne croient pas vraiment que Jésus est Dieu. Clovis, lui, il n'est rien du tout. Et alors, ça va être très intéressant parce que, certainement, Clovis va connaître Sainte Geneviève quand elle est une femme mûre et il a de la vénération pour lui, pour elle. Il n'y a pas que lui. Geneviève, dans les dernières années de sa vie, va être vénérée, presque canonisée de son vivant. Clovis, donc, évidemment, connaît Sainte Geneviève et probablement, bon, on n'a pas de témoignage écrit de sa part, hein, mais probablement son exemple, courage, piété, fermeté, droiture, générosité, probablement son exemple l'encouragera-t-il à devenir chrétien. Si c'est ça un chrétien, ça vaut la peine. Si c'est cette bande de froussards qui se tirent de Paris dès qu'il y a des ennuis, je préfère mes tatoués, mes guerriers. Et donc Clovis, vous voyez, dans la conversion de Clovis et le baptême de Clovis, qui, vous savez, va être essentiel pour l'histoire de l'Église, Geneviève a joué, évidemment, un rôle. Le baptême de Clovis, je vous le rappelle, c'est 498. Geneviève meurt 3 ans plus tard. Et donc, vous voyez, un vrai rayonnement chez cette femme. On lui doit aussi nombre de miracles dont je ne vous parle pas, vous trouverez tout ça dans les livres. Mais surtout, c'est une femme forte, engagée, fortunée, mais généreuse. Femme de pouvoir, mais de service. Femme active, mais vouée à la prière. C'est sous son patronage que notre diocèse s'enracine depuis 50 ans. Alors, prions pour que cette communion des saints porte encore et toujours ses fruits.